Swing Time. Swing Time sur Swing FM 101.2, la radio du Hot Club de Limoges. Swing Time, préparé et présenté aujourd'hui par Alain Charbonnier. Avec la présence d'une invitée de marque.
Tout à fait, je confirme.
Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors aujourd'hui, titre qui fait rêver.
Ah ben, c'est un titre quasiment géographique ou historique, mais ça m'arrive souvent.
Oui.
J'ai appelé ça avec un point d'interrogation, Harlem à Limoges.
Est-ce possible?
On va voir à la fin, il faut écouter toute l'émission. Mais en tout cas, j'ai sous-titré « En voilà une drôle de question ». Cela dit, elle n'est pas de moi. Elle est de la personne qui est présente, qu'on va présenter.
Et qu'on va découvrir. Alors, Harlem à Limoges, on ne parle que de ça.
Oui.
Pratiquement.
À Limoges, en France, en Europe,
France,
dans le monde.
Dans le monde,
près.
Dans le populaire.
Dans le populaire, il y a pas mal de temps déjà, mais ils en ont parlé dans le populaire, effectivement. Ils ont pensé que Limoges était la capitale du jazz, alors que nous, on est plus modestes, on dit de France ou d'Europe.
Oui.
C'est le monde entier. Oui. Voilà. Alors effectivement, je vais parler aujourd'hui d'un livre qui est magnifique, qui s'intitule « Harlem à Limoges », c'est le titre. Donc c'est le titre que j'ai repris pour cette émission. Ce livre a été publié par les Ardents Éditeurs, éditeurs limougeaux bien connus, qui nous font toujours des livres magnifiques. C'en est un de plus. En plus, pour les amateurs de jazz, de Limoges, ça leur plaît deux fois plus, évidemment. Et ça a été publié à l'initiative de la municipalité de Limoges, de la BFM, et de la personne qui est présente et qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'Anne Legrand, de la Bibliothèque nationale de France, carrément.
Carrément.
Donc elle vient de Paris, elle vient nous voir, c'est beau ça, on la remercie. Et elle a coordonné l'exposition, elle a coordonné le livre, donc c'est à elle que l'on doit toutes ces expositions, au moins sur le plan technique, scientifique, musical, c'est à elle que l'on doit ça. La décision a été prise par la municipalité, mais c'est elle qui est, si on peut dire, la maîtresse d'œuvre de cela.
Et ça n'a pas dû être simple.
Elle va nous le dire. Bon, on va lui donner la parole tout de suite. Bonjour Anne.
Bonjour Alain, bonjour Martine. Bonjour. Merci beaucoup. J'ajouterai à mes titres Bibliothèque nationale de France et Institut de recherche en musicologie. C'est important parce qu'ils m'ont aussi soutenue dans ces initiatives. Voilà. Alors oui, on va dire cheville ouvrière de tout ça et passionnant travail depuis le début, depuis ma première visite à la bibliothèque francophone multimédia, BFM, Bibliothèque francophone multimédia, pour se mettre une valeur d'assurance sur ces archives et pouvoir commencer à travailler dessus. Peut-être qu'il faut que je me réoriente. Qu'attendez-vous de moi exactement?
Ah ben, nous dire un peu la difficulté qu'il y a eu à faire tout ce travail. Et puis peut-être la satisfaction, puisqu'on arrive vers la fin. On a encore des semaines, mais on arrive...
Encore un mois.
On arrive à la fin.
Et puis, c'est rare d'avoir un événement qui dure 6 mois.
Voilà. Oui, c'est vrai. Hein, c'est une exception. Ça, c'est magnifique. Et pour revenir sur le déroulement de ce travail, de ce projet, les difficultés, certes, il y en a eu, parce que comme la fin d'un montage d'une exposition, il y a un stress terrible. Va-t-on y arriver? Va-t-on être prêt pour l'inauguration? Mais en même temps, je vais dire que pour la préparation, les choses venaient d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'à la découverte des archives, les idées venaient et il n'y a pas vraiment eu de difficultés au niveau du parcours. Tout est venu en découvrant les images, les articles, les affiches. Les choses s'enchevêtraient d'elles-mêmes.
Vous aviez de la matière, en fait.
Voilà, il y a énormément de matière. Et effectivement, c'est une exposition sur 2 lieux, la BFM, la Galerie des Hospices. Mais on pourrait en faire une autre tellement... et on pourrait en faire 15 autres sans problème, bien sûr.
Oui. D'autant que pour compléter cette exposition, il y a une exposition... qui tient encore un petit peu au Musée de la Résistance sur le jazz dans l'entre-deux-guerres. Alors, le jazz, il faut prendre avec un peu de réserve et un peu de guillemets, ce qui est normal, on est dans l'entre-deux-guerres, et qu'on a aussi les œuvres, un autre aspect de la personnalité de Jean-Marie Mas, qui est Jean-Marie Mas peintre, et au Musée des Beaux-Arts de Limoges, il y a une salle qui lui est dédiée, c'est le prolongement. Voilà. Donc, c'était vraiment un semestre fantastique. Cannes a coordonné en grande partie, tout de même. Donc, on la remercie.
Merci beaucoup.
Alors, on va donc regarder, feuilleter tous ensemble ce livre, dont le sous-titre est « Une histoire du jazz à Limoges ». Et on va y retrouver des documents exceptionnels. Anne Legrand vient d'en parler. Ce sont des documents qui retracent de fait l'histoire du jazz, je dirais chez nous, à Limoges, au Limousin, mais un petit peu en France aussi. D'autant que les relations entre Paris, Bordeaux, Montauban, tout ça, ce sont des villes qui étaient reliées à Limoges sur le plan du jazz dans ce demi-siècle. On va aussi se rendre compte, en lisant ce livre, en le feuilletant, eh bien on va se rendre compte de la richesse et de la qualité des archives que Jean-Marie Mas a pu accumuler et partager, parce qu'il partageait aussi ce qu'il avait avec quelques affidés, quelques gens qu'il connaissait et qui étaient amoureux de la même musique que lui. Donc ce qu'il partageait dans l'antre, on peut dire, de la rue François Chaigneux à Limoges. C'est plus l'antre de Jean-Marie Mas, c'est devenu autre chose, c'est un appartement ordinaire. À l'époque, c'était un lieu très particulier. Alors, je conseille tout de suite d'acheter ce livre. Oui. Alors, y compris sur commande auprès de l'éditeur ou de la BFM, mais Anne Legrand va nous donner des précisions tout à l'heure, même tout de suite. Et on peut même s'en procurer plusieurs exemplaires parce que les fêtes de fin d'année vont arriver. Et donc c'est bien, c'est un joli cadeau. En plus, c'est pas cher. Et puis alors, si on est très très généreux pour soi et pour les autres, on peut acheter le petit disque qui va avec, qui sont des archives inédites qu'on n'a jamais entendues. Sauf un petit peu, j'ai dû en passer un ou deux morceaux dans Swing FM, dans Swing Time. Aujourd'hui, on va entendre 4 titres, pas plus. Les autres, il faut les acheter. Donc, on peut acheter le livre et le disque. Et Anne, à quel endroit on trouve tout ça?
Donc, à la Bibliothèque francophone multimédia, vous pouvez, si vous êtes Limougeaux, vous y rendre, dans les librairies locales et sur Internet, aux Ardents Éditeurs également, au siège des Ardents Éditeurs. Et par Internet, sur le site des Ardents Éditeurs ou sur d'autres sites.
En ligne, ça se trouve, j'ai regardé. Oui.
Exactement.
J'ai regardé. Alors, les deux maisons, les deux libraires de Limoges qui sont pourvus en livres, je pense, je leur ai dit, j'irai revoir s'ils en ont encore. Et s'ils écoutent, il faut qu'ils s'en procurent quelques exemplaires. C'est Page et Plume et c'est Anecdote qui sont nos.
Les deux libraires.
Il y a d'autres libraires, mais c'est des libraires indépendants et qui ont toujours de jolis livres. Qui commandent s'ils n'ont pas, voilà. Et au Musée de la Résistance, on peut aussi trouver le livre et le disque.
D'accord.
Voilà.
J'avais oublié.
Donc voilà. Donc tout le monde va acheter et le livre et le disque.
Ouais.
On va d'abord écouter l'émission, comme ça, ça donnera une petite idée. Et puis après, tout le monde va se précipiter. Le jeudi soir, on commande par Internet. Le dimanche aussi, après l'émission.
Aussi.
Mais tout le reste du temps,
on peut aller sur place
le commander. C'est bien de le commander sur place, c'est comme le jazz et les bananes, ça se consomme sur place. C'est pas de moi, c'est de Jean-Paul Sartre, ça.
D'accord.
Voilà, pas pour le bouquin, mais pour les bananes et le jazz. Alors Anne, j'ai une question à vous poser, parce que dans le cadre de Harlem à Limoges, vous n'avez pas travaillé seul, il y avait quand même des gens qui ont aidé autour.
Oui, au niveau de la bibliothèque francophone, Laure Fabry.
Oui.
Et puis pour le disque, on a eu François Luxuant, qui a son label, Saga, et qui nous a fait un travail remarquable de restauration et de nettoyage de ces fameux disques pirales qui contenaient ces documents rares.
Voilà. Et au Musée de la Résistance, il n'y a pas un petit jeune historien que j'ai vu traîner à un moment donné?
Exactement. Au Musée de la Résistance, il y avait Yannick Varrois, qui est le commissaire de cette exposition au Musée de la Résistance. Et on peut retrouver un article sur dans le livre Harlem à Limoges. Et puis, on peut souligner aussi le soutien et le travail, parce qu'il a fait un pré-tri dans les archives de Jean-Marie Mas avant que j'arrive, de Christophe Guillot, qui est donc l'auteur aussi dans le livre d'un article sur Jean-Marc Lan.
Voilà, tout à fait. Il me semblait qu'il y avait eu d'autres. Il fallait des chevilles ouvrières, d'autres.
Hein. Oui. Voilà. C'était pas possible de travailler seul.
Voilà, mais le résultat est beau. Alors, le premier personnage que je vais évoquer, y compris comme musicien, eh bien c'est tout simplement Jean-Marie Mas lui-même. Il est l'objet d'un article de Claude-Alain Christophe, notre estimé président du Lot de Limoges, un article qui est page 29, vous voyez que c'est précis. Et on va entendre Jean-Marie Mas dans un enregistrement qui est rare. De toute façon, comme cet extrait du fameux disque, c'est rare puisque personne ne l'a entendu, sauf ceux qui ont acheté le disque et qui l'ont écouté. Ça a été effectué au 4 rue François Chaigneux, donc dans l'appartement de Jean-Marie. Et Lionel Hampton, qui allait donner son premier concert à Limoges en 1955, a été invité chez le président du club de Limoges, évidemment. Jean-Marie Mince était batteur de profession, comme Lionel. Ils ne sont pas dans la même catégorie. Il y en a un qui joue en régional et l'autre qui joue en première division. Je ne dirai pas qui, mais ils ne sont pas dans la même catégorie. Donc, Jean-Marie avait dans sa maison, dans son salon, il avait un petit piano crapaud. Crapaud parce qu'il fallait qu'il soit un peu petit, ouais. Parce qu'un un grand, ça n'aurait pas marché. Et c'était un petit salon auditorium. Eh bien, il y a un bœuf qui a très, très vite démarré. Et on va écouter le résultat. On en prend pour 8 minutes tout de même. Et peut-être que c'était la nuit, j'en sais rien, parce qu'il se pose une question aussi. How is the moon?
Hey, John.
Yo.
Get the snare drum, go and play this next tune with us.
With the Jones.
No, get the drum. Snare drum. Drum, wire pressure.
With the Jones.
No.
I?
Yeah, you.
Vou entrar na zona.
Ei! Go!
Thank you.
voilà un disque de jazz in vivo, si je peux dire. Et puis, on n'est pas limité par les 3 minutes d'un 78 tours, parce que c'était chez Jean-Marie, et il enregistrait tout ce qu'il voulait. Et techniquement, ça a posé des petits problèmes, ou pas, Anne?
Oui, ça a posé des petits problèmes, mais ils étaient déjà très organisés, et donc ils avaient deux platines, et dès qu'il y avait un disque qui terminait sur une platine enregistreuse, ça repartait sur l'autre platine. Donc là, il y a plusieurs disques pirales pour ce morceau de 8 minutes.
Donc le montage est superbe parce qu'on ne l'entend pas.
Et le montage est superbe. Et donc on peut souligner le travail de François Luxuant, qui a son propre label, Saga, et qui a fait vraiment un travail remarquable de nettoyage pour tous les morceaux, et qui a effectivement également non seulement nettoyé ses documents sonores, mais qui les a raccordés pour que ça fasse plus qu'une plage.
Voilà. Mais c'est une bonne marque de disques Saga, parce qu'ils font beaucoup de disques avec des thèmes intéressants. Et on peut dire que nous qui sommes amateurs de jazz, Claude-Alain Christophe qui vient d'arriver va le confirmer, on a dans nos discothèques des disques Saga tout de même.
Oui, mais alors je suis un peu surpris parce que l'autre jour, j'ai posé la question, je ne sais plus si c'est à toi Anne ou si c'est à Laure Fabry, qui a eu l'air de me dire que ce disque il n'était pas distribué dans le commerce.
Non, il n'y a pas de distributeur. On peut se le procurer, tout comme pour le livre, à la bibliothèque francophone multimédia. Je pense au magasin de disques à Limoges.
Oui, oui.
Vous me rappellerez le nom après.
Point chaud.
Voilà. Oui. Et donc, si, pour les gens qui sont en dehors de Limoges, il y a la possibilité d'écrire à la bibliothèque francophone multimédia, d'envoyer un chèque et ils envoient le disque.
Oui. Et on le trouve sur Internet, hein, parce que moi, j'ai vérifié, il y a une marque, je ne citerai pas, mais qui évoque une forêt brésilienne, équatoriale.
Et en Amazonie
il y est. Oui, oui, on le trouve, j'ai regardé. Il se trouve là-dessus, mais on trouve tout. C'est Amazon, pour ne pas citer. J'ai vérifié s'il y avait le livre et le disque.
Que ne font-ils pas?
Ils vendent les deux. Je crois d'ailleurs qu'ils le vendent le prix d'ici, autant que je me souvienne. 15 euros, autant que je me souvienne. Mais je suis sûr, parce que j'ai vérifié hier, évidemment, avant d'en parler.
Très bien.
Ils le vendent. Donc on peut le trouver partout, dans le monde.
Dans le monde.
Puisque String FM est écouté dans le monde. Voilà. Alors, Claude Alain, Jean-Marie Masse à la batterie, ça t'a impressionné ou pas?
Oui, bien sûr, mais je suis impressionné, mais je ne suis pas tout à fait de l'avis d'Anne, parce que je pense quand même, moi, je suis même persuadé qu'à un moment, Lionel abandonne le piano pour faire des roulements sur un tome. Et je pense que ces roulements, ils ne peuvent pas être faits par Jean-Marie. C'est vraiment, on reconnaît les roulements de Lionel.
Voilà. C'est possible.
On pourra discuter longtemps. Voilà. Moi, je pense que c'est que Jean-Marie Masse au ballet.
Voilà. Ah oui, mais il aussi avec les bâtons, il avait les baguettes d'Hampton qui l'impressionnaient beaucoup, parce que les baguettes d'Hampton étaient très, très, très grosses, très lourdes. Et Jean-Marie, qui était un gabarit un peu plus petit que le gars Lionel Hampton tout de même, était impressionné, pas en difficulté, puisqu'il s'en sortait bien. Mais bon, il est possible qu'ils aient joué à deux. Bon, on va...
Il y a quand même, on entend pendant l'enchaînement un petit passage, au piano. Il y a...
Oui.
Moi, je pense, enfin, ce que j'ai aimé dans ce morceau tout de suite quand je l'ai écouté, d'ailleurs, c'est la ferveur qu'il y a autour, et on sent que Jean-Marie Masse s'est porté. Et si on écoute attentivement, il y a des moments, le piano reprend tout de suite. On ne saura jamais, on pourra peut-être essayer de ralentir, d'écouter au ralenti, etc. Ça fera le sujet d'une recherche et d'une analyse musicologique.
Jean-Marie joue des ballets.
Il
joue très bien d'ailleurs des ballets. Je trouve que là, c'est une des choses les meilleures que je connaisse de lui à la batterie.
Oui. Et...
Mais et les roulements, ils ne sont pas faits au ballet. Et c'est pour ça, en plus, que je pense que c'est Lionel qui a pris des baguettes et qui, sur le tome de Jean-Marie, s'est amusé pendant quelques secondes à faire des roulements, je crois.
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il l'invite après sur la scène pour le concert à venir jouer avec l'orchestre. Et il savait ce qu'il faisait, puisqu'il l'avait entendu jouer. Et donc, Lionel Hampton était sûr du résultat.
D'ailleurs, il l'a mis d'abord sur le tome, dans le concert, et ensuite, il l'a envoyé à la batterie. Oui, oui. Bon, mais c'est bien, il suffit d'acheter le disque, et puis tout le monde se fera une idée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a engagé cette petite polémique musicale très, très intéressante.
En fait, on sait complètement la réponse, nous, on le sait.
Oui, mais on ne le dira pas.
On ne le dira pas.
Alors, on va passer à un autre grand personnage, mais qui n'est pas non plus un musicien, du moins pas de métier, et pas tout le temps, même s'il a joué un petit peu de saxophone. Eh bien, il s'agit tout simplement d'Hugues Panassier. C'est un peu grâce à lui que la France a connu et aimé le jazz, je dirais presque jusqu'à aujourd'hui. Et le colloque qu'il y a eu il y a quelques semaines a montré que le nom d'Hugues Panassier était connu d'un certain nombre d'amateurs, et un peu au-delà tout de même. Hugues a été un modèle, un ami, un protecteur de Jean-Marie, je pense, à la période de l'occupation. Un article lui est consacré dans ce fameux livre, je précise toujours page 41, parce que je l'ai lu tout de même. Hein. Et le fondateur du Hot Club de France, donc Hugues Panassier, s'était rendu à New York en 1938 et il avait enregistré un musicien qui était oublié alors, qui était un très très grand trompettiste, un excellent trompettiste, mais qu'on avait oublié, qui faisait de l'artisanat, qui a fait tailleur, qui a fait toutes sortes de métiers. Et bien, il s'agit tout simplement de Tommy Lanier, et donc Hugues a voulu l'enregistrer. Il l'a enregistré avec quelqu'un qui a été son mentor, son guide, son logeur à New York. Il s'agit de Milton Mesmero. Et voici Tommy Lanier, Milton Mesmero, dans les fameux enregistrements Panassier. Un seul, on ne va pas tout passer, mais il y a des disques là-dessus. J'ai pris un titre ultra connu, c'est Royal Garden Blues, et c'est un disque enregistré à New York, donc le 19 décembre 1938. Eh bien, à côté de Tommy et de Mez, il y avait des gars costauds tout de même. Il y avait Teddy Bunn à la guitare, Pops Foster à la contrebasse et Menzi Johnson à la batterie. Et ça, c'est un disque qui est extrait des archives du Hot Club de France, qui publie de temps en temps, on peut trouver des disques sous la marque Milan d'ailleurs. Donc c'était... C'est Hot Club, ça, hein, voilà. Mm-hmm. Alors, il faudrait que j'arrive aux musiciens, parce qu'ils on va dire, mais il parle de quoi, ce garçon ? Alors, je vais parler des musiciens, et le premier musicien que je voudrais présenter, Escalité, c'est Rex Stewart. Ben, pourquoi Rex ? Parce que c'est celui qui a assuré le tout premier concert de jazz à Limoges, donc organisé par Jean-Marie Mas, les étudiants, mais enfin, c'était Jean-Marie Mas. Et ce concert a eu lieu avant même la création du Hot Club, puisque le Hot Club de Limoges a été créé
le mois suivant.
Alors, il n'y a pas d'enregistrement de Rex à Limoges, mais il y a des enregistrements de l'époque qu'on peut trouver en disque, et avec la formation qui s'est produite le 14 janvier 1948 à la salle Berlioz, à 20h. Je ne l'invente pas, c'est dans le livre, évidemment. Ouais. Et on va écouter Stomping at the Savoy. Et dans le livre, quand on écoutera ça, les gens qui vont écouter l'émission, s'ils ont le livre, ils le regardent. Sinon, ils vont télécharger l'émission, ils liront le livre avec l'émission. Ils verront une magnifique photo de Rex Stewart, page 37. Je renvoie à page 37. Ça, c'est un morceau de décembre 1947. Et à Limoges, c'était le mois suivant. Il s'était bien rodé, donc le concert a dû être très, très bon à Limoges, 48. Alors, je n'ai pas pu y aller, moi, pour une raison simple, c'est que c'était janvier 48.
Tu n'étais pas né.
Eh bien, oui, je suis arrivé en avril 48.
Ben voilà, à quoi ça tient.
Bon, ça fait rien, j'en ai vu et j'en ai entendu d'autres après, voilà.
Ah, non
même, j'étais en gestation, oui. Mais ma mère habitait.
Tu pouvais l'entendre, mais bon.
En région parisienne, elle était. Oui, non. J'ai tout loupé. C'est dommage. Tant pis. Il y a un autre grand jazzman que je n'ai pas vu à Limoges à ce moment-là, mais que j'ai vu plus tard. Et il a marqué la vie artistique de Limoges. C'est le talentueux Willie the Lion Smith, donc un magnifique pianiste, un merveilleux ancien combattant, si j'ose dire, hein, parce qu'on n'est pas loin du 11 novembre, donc pensons à lui. Et il s'entendait d'ailleurs très bien avec le maire de Limoges en tant qu'ancien combattant, le fameux Léon Betoul, appelé shérif.
Ah oui.
Anecdote que je dois à Claude Alain Christophe.
Oui, oui, c'est le lion qui, après le discours du maire, quand ils ont trinqué, il a dit à votre santé, shérif.
Sympathique, oui.
Et Betoul a trinqué avec le lion. Mm-hmm. Betoul a trinqué avec un lion, c'est pas rien.
Il l'a dit en anglais, ça.
Il l'a dit en anglais, évidemment. Et page 129, il y a une très belle photo de pochette d'un long playing. D'un 33 tours, d'un disque 33 tours, on ne sait plus les appeler, les disques 33 tours, on ne les connaît plus, qui est un disque Jazz Odyssey, qui s'intitule The Lion and the Tiger. Alors, le tigre, c'est un autre fauve, mais c'est un fauve de la batterie, c'est Joe Jones. Et on va écouter ces deux fauves dans un titre qui est Blame It on the Blues, et c'est enregistré à New York tout de même, mais c'est un disque français, le 18 février 1972. Et je signale que la firme Frémo et Associés a réédité ce disque comme d'autres. Mais Frémo et Associés, c'est pareil, c'est un archiviste, un historien. On peut tout entendre chez Frémo et Associés et du très bon jazz, c'est ce qui nous intéresse, nous. Beaucoup de pattes, ce lion, tout de même. Hein.
Ouais.
Alors, on va rester avec les très grands du jazz, parce qu'il y a deux trompettistes qui vont devenir des amis très proches de Jean-Marie Masse. Ils sont devenus des amis d'autres clubs de Limoges. Ce sont des jazzmen qui vont apprécier toute leur vie l'amour et la connaissance du jazz qu'a Limoges et la France. Et ils vont aussi être des relations directes de Hugues Panassier. Je vais appeler ces deux grands artistes majeurs, ces deux trompettistes. Il s'agit de Buck Clayton et de Bill Coleman. Et ils vont jouer deux titres. Le premier est annoncé par Buck en français. Il s'agit de Sugar Blues, qui est extrait du CD dont on parle, que tout le monde va acheter bientôt, qu'on trouve à Limoges et même ailleurs quand on cherche. Et le deuxième morceau, bah, c'est Bill qui va nous le jouer, à la trompette évidemment. Et c'est un morceau qui est enregistré le 24 mai 46 à Paris, donc pas à Limoges, qui est une sorte de profession de foi et avec laquelle on va être d'accord, puisqu'il nous dit, il nous joue « I got a right to sing blues ».
Et maintenant, le fameux « Sugar Blues ». Thank you.
got a right to sing the blues. I got a right to feel low down. I got a right to hang around, down around the river. A certain girl in this town keeps dragging my heart around. All I see for me is misery. I got a right to sing the blues. I got a right to moan and sigh. I got a right to sit and cry down around the river. I know the deep blue sea will soon be calling me. It may be love, say what you choose. I've got a right to sing the blues.
Alors, à nouveau, quand les gens vont, soit on va acheter et ils écoutent l'émission avec le disque, soit ils vont acheter le livre et après ils vont réécouter l'émission. Ils vont voir des choses extraordinaires dans ce bouquin. Mm-hmm. Ils vont voir une lettre de Buck Clayton envoyée de chez Eddie Connons en 1960 à Jean-Marie Mas. Donc Buck devait jouer chez Eddie Connons hein, dans le club. Et la fin est fantastique, tout de même, bien que là qu'on peut la retrouver. Qu'est-ce qu'il écrit, Buck ? Embrasse Paulette pour moi et sois sage.
Oh. Et en français dans le texte.
Et ouais. En français dans le texte, parce qu'il avait appris le français et il s'ingéniait à parler français, qui parlait bien.
Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel dans les archives. Voilà. Les premières lettres sont en anglais et rapidement, il se met au français et il écrit un français parfait.
Oui, il écrit très très bien. Voilà. Bill Coleman parlait aussi le français, mais il a vécu en France pendant longtemps. Il a même rejoint le Deep South français. Il était dans le Gers à un moment donné, à la fin de sa vie. Et le disque qu'on a entendu, I got a right to sing the blues, eh bien on peut le trouver, page, sinon le disque, la pochette, page 83, Bill Coleman plays the blues, il y a une belle photo de Bill avec sa trompette, à côté il y a Georges Duvivier, il faudra signaler à la firme Columbia que George Duvivier, ça ne prend pas d'aise à Georges, c'est un Américain, c'est pas grave, par contre précision, pour ça qu'il faut acheter le livre, précision exceptionnelle, ça a eu ce disque, le prix de Jazzot, 1956-1957. Où est-ce qu'ailleurs que dans ce livre, on peut trouver ce genre de précision ? Il n'y a que là.
Merci.
On est d'accord. Bon. Et alors, on a entendu deux représentants de ce que je dirais, l'élégance personnifiée en jazz, donc par leur jeu à la trompette, mais aussi par leur allure, à tous les deux, je trouve, et même dans leur rapport aux autres. Et ce furent même des familiers de Limoges, capitale des Lemovis, capitale du jazz. C'est fantastique tout ça. Mais ils étaient élégants, Claude Alain, tu es d'accord ?
Ah oui, oui, je les ai bien connus tous les deux. Et c'était des types formidables à tout point de vue. Comme musicien, comme homme, comme ami, vraiment, ils étaient exceptionnels.
Ouais. Des gars qui étaient restés simples et tôt, qui ne se prenaient pas pour des vedettes, et qui l'étaient tout de même, mais ils ne se prenaient pas pour des vedettes, on est d'accord. Alors il y a un autre musicien qui a adoré la France, qui adorait la pêche à la ligne, mais en France, on pouvait en faire beaucoup. Il s'agit de Don Byas. Il y a un article qui lui est consacré, à lui aussi, page 89. Et on va l'entendre rhapsodisant dans son style si personnel. Il est enregistré au Sully. Donc ça, c'est à Limoges. C'est donc extrait du fameux CD Saga de la ville de Limoges. Ça a été enregistré en 1949. Il y a un trio de musiciens limougeaux. Ah oui, à Limoges, le jazz, hein, c'est pas d'aujourd'hui, finalement. On est en 49. Au piano, Jean-Pierre Bruno. À la basse, Georges Lalu. Ça, c'est une dynastie de musiciens, les Lalu, tout de même. Georges écrit avec un S, hein. c'est un Limousin. Et à la batterie, bah, qui d'autre ? Jean-Marie Mas, évidemment. Et on écoute The Gypsy. Mm-hmm. C'était joli, ça, encore. Ça, c'est du Don Byens, typique. Joli. Alors, l'affiche du concert, on la retrouve dans le livre, page 97. D'ailleurs, on la retrouve dans le livre et on va rectifier une erreur que j'ai dite tout à l'heure. Oui. Le concert n'était pas en 49, mais en 1952, le 24 mai. Voilà, j'ai fait une petite erreur et je m'en excuse terriblement, urbi et orbi. Mais grâce au livre, je rectifie mes erreurs. Je confirme qu'il faut acheter ce livre. Et même quand on l'a lu, il faut le relire, puisqu'on peut faire des erreurs, je viens d'en faire une. Et donc, on a cette affiche du concert de Bill Coleman. Et l'article que consacre Daniel Levert à Bill Coleman, bon, des fois un petit peu, pour moi, un peu discutable, je prends quelques pincettes, parce qu'il fait beaucoup de Don Byens and Bopper, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, évidemment, Don a joué beaucoup avec Dizzy Gillespie, enfin Dizzy Gillespie, qui lui est un bopper, ça c'est clair, oui. qui a joué du très bon jazz aussi. Il a joué aussi avec Cab Calloway. Est-ce que Cab était un bopper? Je crois pas. C'est un zazou essentiellement. Voilà. Voilà. Donc,
Il a joué chez Basie aussi.
Il a joué chez Basie. Alors c'est vrai que tous ces musiciens adoraient jouer ensemble, adoraient explorer des pistes nouvelles. Donc c'est ce qui explique que l'on trouve Don Byens avec des compagnies très très différentes. Alors je vais rester avec un autre saxophoniste qui est honoré dans ce livre, et à juste titre, et c'est notre Guy Lafitte national. Là, c'est un gars du Deep South. Lui, il est né à Saint-Gaudens, hein, le Deep South français, évidemment. Bon, celui-là, le nôtre. Et alors, je vais oser le dire, ça, on va l'écouter jouer une balade, et vous allez écouter comme il nous balade dans sa balade. Et ça s'intitule « If I Had You », et ça, c'est enregistré à Paris en 1954. Martine, là, il y a un pianiste pas très, très connu. Oui. Il s'appelle, c'est du moins ce qui est écrit au niveau de l'enregistrement, Jean Dupont. Et est-ce que tu connais Jean Dupont, toi, Claude-Alain Christophe,
un pianiste
Dupont.
Je suis sans doute un faux nom.
Bien sûr, c'est Pépé Persianique.
Oui, bien sûr.
Donc Jean Dupont, c'est André Persiani, vibraphoniste, il n'est pas inconnu, et il n'est pas non plus avec un nom d'emprunt, c'est Joe Daly. On va entendre maintenant un autre Français, compagnon de route du Yacht Club de Limoges. Il est lié d'amitié avec Jean-Marie Mas et avec les Ribières. Il s'agit de Claude Bolling. Et c'est d'ailleurs Noël Ribière qui a rédigé le bel article sur lui, qui commence page 131, j'ai tout lu, je le signale. Et on va écouter Claude Bolling, fervent disciple de Duke Ellington déjà à l'époque, dans une version que j'ai trouvée en trouvant de la musique en ligne, dans une version de 1956 d'un disque d'un disque avec 4 titres, mais alors des titres tous assez longs, qui a été publié par le Club français du disque en avril 1956. J'étais né, mais je n'avais pas le disque à l'époque. Et ça s'intitule, tout simple, on prend le taxi, et qu'est-ce qu'on dit au gars du taxi ? Drop me off in Harlem. Bon, ça a duré un petit peu longtemps. On est parti de Limoges. On était droppé off à Harlem, si j'ose dire. Alors, ce qui est frappant quand on entend cette musique de Claude Bolling, on est bien dans le style Bolling, même si on entend l'influence d'Ellington. Il y a les deux. On voit bien qu'Ellington l'a influencé, mais on reconnaît bien l'orchestre de Bolling, qui s'appelait à l'époque le Grand Club Orchestra. Tu es d'accord avec ça?
Oui, tout à fait. Je disais, en plus, c'est un thème d'Ellington.
Et en plus, c'est un thème d'Ellington, tout à fait. Et il y avait de bons solistes dans cet orchestre. J'en cite quelques-uns, parce qu'il y en avait pas mal. Il y avait Benny Vasseur au trombone, Fernand Weichstraat à la trompette, Roger Guérin. Et il y avait tout de même notre GG national, Gérard Badini, qui jouait de la clarinette ici. On le connaît plus souvent au ténor, mais il joue des deux. Un bon contrebassiste, Pierre Michelot. Bon, c'était un très bon disque. Alors, puisqu'on est arrivé à Harlem, on va marquer une pause, on va prendre un petit peu de temps, on va aller écouter de la musique, on va aller danser au Cotton Club, on va faire un tas de choses, hein, on va aller au Savoy. Bon, on va rester quelques temps, Anne va rester avec nous, et puis quand on reviendra la semaine prochaine, on va écouter la suite tout de même, hein, on va écouter la suite, et puis il faudra mettre toujours du jazz, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais c'est dans le livre, c'est le blues aussi, donc on écoutera aussi du blues. Donc on va arrêter pour aujourd'hui, mes petits chats. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Tu es d'accord, Martine ?
Bien sûr.
C'était Swing Time 2018. Cette émission Harlem et Limoges était préparée et présentée par Alain Charbonnier en compagnie d'Anne Legrand. On se retrouve la semaine prochaine.
Voilà, on revient d'Harlem.
On revient d'Harlem.